Nous sommes mercredi 9 septembre 2017 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar.
Je crois que t'as pas à dire.
Bonsoir à tous, bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Zergy qui va gérer la garderie avec moi ce soir. Que nous n'avons que des petits jeunes un petit peu foufou.
Cet été, j'ai eu 13 ans.
Moi, voilà. Et demi.
Oh.
C'est, vous allez bientôt pouvoir vous sucer la pomme. Bref.
Hein?
Je sais plus où j'en étais. Voilà, alors c'est-à-dire qu'on avait fait une bonne intro, mais là maintenant, vous êtes en train de me foirer mon introduction secondaire. Et ça, c'est pas bien. C'est la faute à... Non, c'est pas la faute à Zergy, c'est votre faute à vous, les jeunes, là. Cette génération bonne à rien, là, une génération perdue. Bref. Tu aimes bien entendre ça, Galaxy, je suis sûr.
Ah oui, non, moi j'adore.
C'est à chaque fois. C'est...
Ah non, mais moi je, j'ai un mur kiff. Avec toutes les citations de les 2000, machin. C'est génial.
C'est génial. Bref, donc, cette émission de reprise, nous allons parler d'un jeu tout récent. Nous allons parler de Mario et les Lapins Crétins.
Ouais.
Et pour les gens qui se poseraient la question, oui, nous parlerons de Splatoon 2, oui, nous parlerons de ARMS, mais ce sera les deux prochaines émissions, donc je peux donner le programme de 3 semaines en avance, c'est pour vous dire à quel point c'est préparé, là c'est quand même la folie. Donc on va parler de ARMS, on va parler de Splatoon 2, seulement voilà, c'était un peu les sorties de l'été, et le problème, c'est que le mois de juin du Dojo Bar, c'est toujours très compliqué, parce qu'on a l'E3, on a tout un tas d'émissions à faire là-dessus, donc ARMS qui sort en plein milieu de ça, toujours très compliqué à faire. Bref. Mais avant ça, nous n'allons pas faire un tour de table de l'actu, parce que l'actu, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant ces deux derniers mois. Il y a eu beaucoup de sorties de jeux, mais finalement pas forcément d'actualité très intéressante. Mais nous allons faire un tour d'actualité de nos actualités, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on a glandé pendant tout l'été, à quoi on a joué, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait. Et je vais commencer par Drosgar, qui a une très bonne nouvelle pour tout le monde. Mesdames, Drosgar est célibataire.
Alors.
Et Drosgar est équipé de son propre appartement totalement insonorisé. Le lit est neuf, il est prêt à le casser. Donc voilà, alignez-vous, c'est parti.
Les lattes sont très résistantes. C'est déjà un premier point. C'est important de le savoir quand même.
Mais t'as testé, donc c'est bien.
Par contre, le point Drogar est célibataire, je vais me faire taper dessus. Mais Drogar est toujours ouvert à toute proposition, hein, surtout Galaxis.
Bonjour.
C'est pas possible. Donc, deux gamins.
Merde. Comme l'annoncé fièrement mortel, j'ai pris mon appartement. Et ouais. Vous en foutez sûrement, mais pour moi c'est très bien, oui. Parce que je vais enfin pouvoir jouer à un rythme un peu plus régulier. Parce que je ne monopoliserai plus la taille du salon dès que je voudrais jouer à quelque chose. Bon, c'est vrai que depuis l'avènement de la Switch, c'est forcément plus simple. Mais ça m'arrange sur pas mal de points et je pourrais peut-être un peu plus parler des jeux récents, on va dire. C'est déjà pas mal. Après, sinon, cet été, bah, le problème, c'est que ça m'a pas mal occupé. Parce que l'aménagement d'un premier appart, surtout quand on sait pas trop s'y prendre, ça prend vachement de temps.
Alors, un indice chez toi, il ne faut absolument pas mettre les toilettes au milieu de la cuisine. C'est une erreur stratégique.
Et ben en fait, j'ai mis au milieu du salon, au début, en pensant que ça pouvait être un petit côté un peu art moderne.
Un côté un peu champêtre.
C'est ça.
Un petit peu, voilà.
À côté du canapé.
Le proprio a pas trop aimé. Je préfère quand même le signaler. Donc j'ai dû casser ça et le remettre à l'endroit.
Moi, c'est vrai que depuis l'avènement de la Switch, puisque voilà, je pense que il n'est plus nécessaire d'avoir des toilettes dans le salon pour pouvoir vraiment profiter de ces jeux. Et ça, c'est quand même un avancement qui est important.
Bah, le fait de pas avoir les toilettes dans le salon, ça oblige à se lever pour aller aux toilettes.
Ah oui, bon alors après, t'as toujours des inconvénients, on est bien d'accord.
Oui, ce qui est quand même un inconvénient non négligeable.
Il y a toujours des inconvénients, mais je te rappelle, tu te souviens de l'âge de pierre quand il fallait que tu mettes ta pause pour aller chier?
Après
tout ce que j'ai à dire.
La pause.
Je vous rappelle quand même que les appartements étudiants en général, t'as les toilettes, le salon, la chambre, la cuisine, tout qui est dans la même pièce. Donc
mais arrête,
ça limite pas mal le problème.
Alors tu es dans un appart étudiant ou tu es en appart tout court?
Non. En vrai, moi je suis en appart tout court, donc j'ai quand même 2 pièces. J'ai la chance d'avoir une chambre séparée, mais j'ai quand même des potes qui vivent dans un 10 mètres carrés et où tout se mélange. Donc j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour eux.
Une minute de silence.
Voilà, c'est fait.
Une minute de silence.
mais du coup, à part ça, le problème, c'est que bah, vu que Splatoon est sorti à peu près à ce moment-là, ou un petit peu avant, j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer. Mais genre pas du tout. Je ne l'ai même pas lancé. J'ai sorti du blister, j'ai mis dans la pochette de Switch, et c'est tout. Donc je compte rattraper ce gros retard hein, d'ici le mois de septembre, pour pouvoir être prêt pour l'émission de fin septembre sur Splatoon 2. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a tous les jours mon chef qui m'engueule au magasin parce qu'il veut jouer avec moi, parce qu'il est déjà niveau 30 ou je sais pas, enfin il a déjà bien avancé, et qui se fout de ma gueule parce que je vais avoir trop de retard par rapport à lui.
Alors moi, mon achievement de cet été, quand même, ça a été de convaincre un de mes collègues que Splatoon 2, c'était vachement bien, de lui faire essayer, et il l'a acheté, et il kiffe sa race, et j'ai un deuxième collègue qui kiffe sa race et qui l'a acheté, donc bientôt, je vais pouvoir faire du Salmon Run à 4 au taf.
Oh putain, trop bien.
Et là, ouais, là incroyable. Ça aide de la balle. Galaxies, qu'est-ce que tu as fait cet été? Qu'est-ce que... Voilà, à quoi as-tu joué? As-tu des personnel achievements de ouf à nous présenter?
Personnel achievement de ouf, j'ai fini de Malabsolution, alors que ça fait 14 fois que je recommence le début, parce que je perds ma sauvegarde, donc je suis plutôt content. Je me suis remis à Hearthstone, qui est un jeu très sympa. J'avais de l'appréhension en revenant dessus en disant ouais je vais être perdu machin, et en fait non, ça accueille très bien les nouveaux entre guillemets. Et niveau Nintendo, à la page en faisant Pokémon Bleu,
qui est
quand même tout récent.
Donc tu as profité de ton été pour faire un peu de rétro gaming du coup?
Pokémon Bleu, il est sur la console la plus récente de Nintendo que j'ai. La Game Boy, c'est voilà, j'ai ni Wii ni Wii U machin. La plus
t'as
récente.
T'as pas une GBA
c'est...
toi?
C'est Game Boy. Ouais, c'est GBA, mais enfin c'est Game Boy GBA, voilà. Donc c'est à peu près les jeux les plus récents que je peux faire de Nintendo. Sinon en Nintendo aussi, sur Android, j'ai joué à Lady Layton. Et quand je le finirai d'ailleurs, je vais essayer d'écrire un test sur le site, un petit article. Mais je peux déjà dire que c'est très très sympa pour un premier Layton. Je pourrais pas le juger dans la saga parce que bah, j'en ai fait qu'un, Lady Layton. Et voilà, et sinon c'est très très sympa, je vous le conseille.
Donc ça t'a plu dans l'absolu, Lady Layton, ça a été
ouais,
plutôt bien, même si tu connais pas du tout la série.
Non, mais je connaissais pas la série, et même la formule était un peu obscure, parce que je savais qu'il y avait des énigmes, mais je savais pas comment le jeu se déroulait vraiment, et je suis agréablement surpris, et ça se prête vraiment très bien pour tous les âges. Je pensais que ça allait être un jeu un peu de vieille, machin, mais en fait non, ça se prête très bien, et puis même la narration... La narration est très bien faite et très sympa à suivre.
D'accord. Je me posais la question de savoir si ce serait le digne héritier de Professeur Layton, donc tu peux pas me répondre là-dessus. Mais d'après ce que tu me dis, ça a quand même l'air d'être le cas.
Par rapport aux autres. C'est ce que j'ai vu sur Internet. C'est très sympa pour jouer sur Android, quoi. Après, est-ce que ça vaut vraiment 60€ sur 3DS? Je sais pas.
Bah ça après ça va être plus compliqué à dire. C'est quoi le modèle économique sur Android? C'est un jeu que tu payes en une fois à un tarif fixe?
C'est un peu différent de tout ce qu'il y a sur Android. C'est-à-dire que c'est je crois que c'est 15€ si je dis pas de bêtises de base. Donc c'est beaucoup moins cher que sur 3DS. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de cosmétiques et d'énigmes optionnelles qu'on n'a pas tout de suite et qu'il faut acheter.
D'accord, donc c'est le jeu de base à 15€, et en fait ouais, voilà. Tout ce qui est un peu fioriture, tu payes en plus, quoi.
Exactement. Et donc du coup le jeu de base avec l'histoire déjà complète, donc ça enlève rien en soi, c'est à 15€. Mais si on veut donc des énigmes en plus, etc., pour prolonger l'expérience de jeu, ou des petites cosmétiques pour le cabinet de détective ou pour le personnage, c'est en plus, c'est des tout petits DLC de quelques euros, mais au final, ça revient à 60€ en fait si on achète tout. Donc, sachant que sur 3DS, tout est débloqué de base.
Si vous voulez le jeu complet tout de suite, il faut l'acheter sur 3DS, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Ou alors, il faut acheter tous les DLC sur Android. Mais dans les deux cas, c'est 60€ le jeu totalement complet. Le jeu de base, c'est 15€ sur Android. Et sur 3DS, bah, il n'y a qu'une seule option d'achat, c'est le jeu avec tous les DLC entre guillemets.
D'accord, ok, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. Ça sort, je crois, sur 3DS au mois de courant novembre, si je dis pas de bêtises, courant octobre, je me souviens plus exactement. C'est fin octobre ou fin novembre. Sur Android, et pour 15€, bah, ça fait un échantillon, quoi.
Exactement. 20 juillet sur 3DS, donc apparemment il est déjà sorti. Alors mais peut-être Japon, en dématérialisé.
Hein. Ouais, peut-être en dématérialisé.
Et qui sortira plus tard en physique, à voir.
Zergy, qu'est-ce que tu as fait cet été? À part envoyer des photos de toi sur la plage en train de jouer à Splatoon 2.
Oh, Dénudé.
Mais oui, il était nu. Il était nu, il avait un lèvre-fraise dans la main droite. Et Splatoon 2 dans la main gauche. Tu étais en maillot de bain, effectivement. Un fort joli maillot de bain rouge, si je me rappelle bien.
Ouais, si j'étais nu, j'aurais joué d'une façon spéciale.
Il aurait joué l'écran tactile avec son troisième doigt. Bref.
Sinon, non, pas grand chose de mon côté. J'ai un petit peu avancé dans Xenoblade. J'ai fait une bonne partie du mode monojoueur de Splatoon 2. J'ai participé rapidos au premier Splatfest. Et c'est tout.
Et StarCraft Remaster.
Un petit peu, ouais. Mais pas juste pour tester. Et le truc, c'est que j'ai acheté des jeux pendant l'été, je les ai pas encore sortis, donc voilà. Il y a encore du boulot.
D'accord, donc tu fais le collectionneur un peu comme Drosgar, t'empiles les cartouches sans jamais y jouer.
Moi, c'est pas les cartouches que j'en
fais. Ouais, un petit peu. En même temps, parmi les jeux achetés, il y a Star Fox Zero que j'ai trouvé pas cher, mais bon, on verra. Et il y a le remake HD de Zelda Twilight Princess que j'ai déjà terminé en version non HD.
Oui, c'est-à-dire que j'avais trouvé que Wind Waker HD était très sympa, Twilight Princess HD, ça m'a moins parlé. C'est un très bon remake, hein, y a pas de souci avec ça, mais ça m'a un petit peu moins parlé. À titre personnel, et pour terminer un petit peu ce petit tour de qu'est-ce qu'on a fait tous ensemble...
Alors, oh bon Dieu.
Petit truc, oui. J'ai dit que dans les prochaines émissions, on va parler de ARMS et de Splatoon 2. Mais on ne parlera pas de Sonic Mania parce qu'on n'est pas des Julien Chies, nous.
Non.
Alors, si je l'achète sur Switch, vous m'en voulez ?
Bah ouais.
Oui, c'est-à-dire que c'est un motif d'exclusion. Hein.
D'accord. Et j'en ai déjà acheté 8.
C'est écrit dans le pacte que t'as signé avec ton sang, je te rappelle.
Alors, bon. Moi, cet été, j'ai fait les travaux d'été du serveur qui sont d'ailleurs toujours pas terminés. On a eu un gros blackout du forum qui a été très rigolo à gérer parce qu'on est passé d'une version de PHP 3.0 à 3.2 et il y a plein de trucs qui marchaient pas. Il a fallu migrer ça un peu en urgence, il a fallu remplacer plein de trucs. Enfin bref, ça a été fun. Il y en avait partout. Ça a été relativement fun, mais un peu fatigant, même si ça n'a pas duré très longtemps. En dehors de ça, ça s'est bien passé. Hein, le serveur se porte très bien. J'ai cassé donc deux SSD en l'espace d'un mois dessus.
Super.
Donc ça fait plaisir. Mais là maintenant on a deux SSD tout neufs, donc on est reparti quand même pour quelques années. Donc voilà, wow. ça c'était pour le serveur. Si vous avez un petit peu suivi le dojo, vous avez vu que j'ai publié un petit test sur l'adaptateur RAFNET GameCube vers N64, donc pour brancher des manettes de GameCube sur une N64. Et du coup, comme c'était les 20 ans de GoldenEye, oui parce que GoldenEye est sorti le 25 août 1997. Et ouais.
J'étais né.
Tu étais né, mais tu étais petit.
Et pas moi.
Et voilà, alors là, c'est vraiment c'est la Hawa.
C'est la Rasra de chez Rasra, comme dirait Dupont-Aignan.
Bref, donc j'ai fait énormément de GoldenEye en fait cet été pour arriver à faire un petit article sur GoldenEye et Perfect Dark que je n'ai pas encore fini. C'est la reprise des archives de Cranky qui, le principe, c'est d'aller faire du rétro gaming, mais en ayant. Pas en analysant un jeu, mais une série entière, en essayant de la remettre un petit peu dans le contexte de l'époque et de voir un petit peu ce qu'on peut en retirer et si ça vaut encore le coup d'y jouer aujourd'hui. Je vous rassure, pour GoldenEye, ça vaut le coup. Et le fait de pouvoir y jouer avec cet adaptateur qui permet d'avoir une configuration moderne, c'est-à-dire avec les déplacements sur le stick de gauche et la visée en gros sur le stick de droite, eh bien ça change beaucoup, mais alors beaucoup beaucoup de choses, et ça rend des jeux comme ça qui sont peut-être un peu arides à prendre en main aujourd'hui, un peu compliqué à prendre en main, un peu difficile à se remettre, ça aide énormément à s'y remettre, et ça permet vraiment de bien s'amuser. J'ai hâte de faire, par exemple, l'intégrale des Turok sur N64 avec le même genre de configuration. Je pense que ça va être relativement marrant à faire.
Et je confirme ce que tu dis, le fait que peut-être avec une configuration moderne, ça change pas mal de choses. Parce que début juillet, donc j'ai testé GoldenEye sur Nintendo 64 avec une manette de Nintendo 64, quoi. Et le vrai problème, c'est la visée. Et c'est là qu'on se rend compte, même sur Super Mario 64, on a fait vraiment des efforts en termes de caméra. C'est vraiment ce qui choque. Parce qu'autant les déplacements, etc., ça n'a pas tellement bougé. Parce que même Mario, c'était déjà très rodé à l'époque.
Super Mario 64, c'est un jeu qui est... Enfin, quand tu reprends les jeux de l'époque, c'est vraiment 1997. La référence du jeu 3D, du déplacement 3D, c'était Tomb Raider. Un rejoue à Tomb Raider sur PlayStation, c'est...
Ah oui, non, j'ai essayé, c'est horrible. Atroce.
Surtout que comme il n'y a pas de deuxième stick, enfin, il n'y a pas de moyen de contrôle de la caméra, en fait, tu tournes la caméra en appuyant sur L et R.
Ouais, et effectivement. Et c'est horrible.
T'as l'impression de diriger un 30 tonnes.
T'as l'impression de diriger un 30 tonnes, t'as les déplacements tank, c'est-à-dire, de toute façon, tu déplaces Lara Croft comme une voiture téléguidée, c'est-à-dire, quand tu pousses vers l'avant, elle va vers l'avant, quelle que soit la direction de la caméra, enfin, c'est atroce. Super Mario 64 est quand même à des années-lumière de ça.
Donc, oui, je non, te rejoins là-dessus, mais la caméra, la caméra est très rigide. C'est vraiment, même sur GoldenEye, la visée est très compliquée, je sais, c'est ce qui m'a fait... C'est ce qui m'a rendu un peu réticent à continuer dans le jeu.
Petite expérience que tu peux tenter sur GoldenEye, parce que pour moi, le gros souci de GoldenEye, puisqu'on en est là, alors je vais spoiler un petit peu l'article que je suis en train d'écrire, mais c'est pas bien grave. Vous le lirez quand même. Le vrai souci avec GoldenEye, en fait, c'est surtout que la méthode de contrôle est extrêmement bizarre, en fait. Parce que déplacer le stick analogique vers l'avant et vers l'arrière te fait avancer, reculer. Jusque-là, rien de choquant. Mais vers la gauche et la droite, tu tournes sur toi-même. Tu ne strafes pas, en fait, tu tournes. Et le straf se trouve sur le C droite. Ce qui fait qu'en fait, finalement, tous les mouvements de... Sur un FPS moderne, en fait, sur le stick de gauche, tu as tous les mouvements de translation, vers l'avant, vers l'arrière, à gauche, à droite. Donc vraiment juste se déplacer selon un axe. Et sur le stick de droite, tu as tous les mouvements de rotation. Donc tourner la tête en haut, en bas, à gauche, à droite. Et le simple fait d'aller dire ben, j'ai les mouvements de rotation gauche-droite d'un côté et les mouvements de translation gauche-droite de l'autre sur deux axes différents, c'est atroce. Donc moi, ce que je conseille aux gens pour essayer de se mettre à GoldenEye sans trop galérer, il y a une configuration qui marche plutôt pas mal. Alors, c'est un petit peu perturbant au départ, mais ça marche pas trop mal. Donc faut tenir la manette N64 en ayant la main gauche sur la croix et la main droite sur le stick.
Oula. Ah oui, ouais, pas super naturel. T'inverses quasiment la manette.
Exactement,
en fait.
Et en fait, vous mettez dans la configuration 1.2 qui s'appelle solitaire. Et en fait, cette configuration-là fait que sur les boutons C et le pad directionnel de gauche, vous avez les mouvements de translation. Et sur le stick, on a la visée. Et comme on a le tir qui est sur le bouton Z, donc du coup, ce qui se retrouve de nouveau sur la main droite, ce qui n'était pas le cas à l'origine.
Très intéressant.
On se retrouve avec une configuration quasi moderne. Le seul truc qui manque, c'est effectivement les touches B et A qui sont très peu accessibles.
D'accord. Voilà. Bonne astuce, du coup, à prendre
Alors,
si j'y rejoue à l'occasion.
Si vous n'avez pas cet adaptateur GameCube vers N64, ça coûte à peu près 45 euros. Et il est vachement intéressant parce qu'il fait plein d'autres trucs. Hein. Je veux dire, c'est un adaptateur programmable. Donc on peut aller réassigner les touches ou réassigner les sticks ou réassigner des axes, un peu comme on veut. Donc c'est vachement intéressant, puis sur une manette qui est plus agréable, enfin un petit peu plus moderne, avec un petit peu plus de possibilités, enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Et si vous n'avez pas ça, solitaire avec la main gauche sur le pad et la main droite sur le stick, vous avez à peu près le même effet. Le seul truc, je dis, c'est les touches B et A qui sont pas super accessibles, parce qu'il faut se tendre un peu le pouce, mais en fait, ça passe pas trop mal. On arrive quand même à peu près à s'en sortir. Et là, honnêtement... ça change un peu la vie parce qu'effectivement on retrouve des sensations un peu modernes, la manette est un peu bizarre, mais vous vous retrouvez avec finalement un maniement moderne de FPS. Et c'est vrai que quand on a pris l'habitude de ce double stick, moi j'ai eu énormément de mal à m'y habituer. Il m'a fallu toute la génération GameCube pour m'y habituer, et à la fin on m'a dit sur Wii, bah tu peux utiliser le pointeur de ta Wiimote, donc je me suis dit bon bah j'ai arrêté de me faire chier avec ça. Mais c'est vrai que une fois que t'as un petit peu l'habitude de ça, en tout cas que tu l'as prise, c'est très compliqué d'arriver à revenir en arrière, et je trouve que cette configuration-là permet, entre guillemets, de revenir en arrière sans trop de douleur. Et la même configuration est disponible pour Perfect Dark, et la bonne nouvelle, c'est que Turok, toute la série des Turok, en fait, mettait les déplacements sur les boutons C, donc les translations sur le bouton C et la visée sur le stick analogique, et pareil, ça fonctionne aussi quand on utilise le pad directionnel.
D'accord.
Donc on peut refaire pratiquement, à ma connaissance, en tout cas pratiquement tous les FPS de la N64 dans ce mode de configuration là et en l'occurrence pour Turok, comme les déplacements étaient sur les boutons C, les boutons A et B étaient relativement peu utilisés, c'était fait pour changer arme suivante, arme précédente, donc en fait en cours de jeu on s'en sert pas tant que ça, donc c'est beaucoup moins gênant. GoldenEye c'est un peu plus emmerdant parce que tu actives les boutons, tu actives les portes avec le bouton B, donc bon, peut-être trouver une petite astuce, mais pour l'instant je l'ai pas trouvé.
Voilà. D'accord, donc du coup ouais, ça permettrait de se refaire les jeux avec une maniabilité, ouais. un semblant de maniabilité moderne.
Exactement.
C'est intéressant.
C'est vraiment très intéressant à pratiquer. Donc moi j'ai refait tout GoldenEye comme ça, et effectivement, à la maniabilité près, le jeu garde une modernité assez assez impressionnante.
Bah ouais, ouais, mais même, aussi, d'ailleurs. Même Super Mario 64, hein, c'est vraiment, il y a que la caméra qui pêchait, sinon j'avais le même feeling que sur un Galaxy, ou bah un peu différent évidemment, parce que c'est bon, c'est plus ouvert, et puis c'est, il y a pas tout cet aspect gravité, mais sinon les déplacements étaient vraiment relativement similaires.
T'as vraiment t'as des déplacements fluides, et ce que je trouve très agréable en plus sur tous ces jeux là et ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu, je trouve, aujourd'hui. C'est que tu as beaucoup plus de finesse de déplacement finalement sur le stick de gauche, parce que le stick analogique c'était la grande nouveauté, donc il fallait s'en servir, tu sais, pour faire marcher Mario, enfin
ouais, oui, je vois. Au ralenti, il y a vraiment faire courir, ou machin. Une possibilité de varier les vitesses, voilà,
que tu as beaucoup moins, je trouve, aujourd'hui, où le stick analogique est essentiellement utilisé pour, on va dire, la direction vraiment analogique, c'est-à-dire à vraiment 360 degrés, mais pas tellement pour varier la vitesse de course ou la sensibilité de mouvement.
Ouais, c'est vrai. Après, les jeux qui l'utilisent en général, c'est plus la FPS qui fait que bah, tu marches rarement dans un FPS comme Call of Duty, etc.
Alors, voilà, c'est là où un GoldenEye, par exemple, est un petit peu intéressant, parce que le jeu a été prévu pour que tu puisses t'approcher lentement des ennemis pour leur mettre un coup derrière la tête, et du coup, quand tu perds ça... Alors ça te gâche pas le jeu, parce que c'est vraiment c'est une subtilité de gameplay dont on peut très bien se passer, mais tu la perds quand même, et tu sens que tu la perds. Il y a des moments où tu sens que tu pourrais t'approcher un peu plus doucement, foutre un coup derrière et tout ça, et là ça se perd un petit peu. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, en général sur les FPS, la plupart des FPS PC, il y avait soit une touche pour courir, soit une touche pour alterner entre la course et la marche.
Ouais,
tu as perdu en général sur console, parce que on s'en bat les couilles.
Mais même personnellement, j'ai pas joué à énormément de FPS non plus, mais j'ai quasiment jamais utilisé tout ce marché, quoi. Même dans un Far Cry.
On s'en sert sur Counter pour pas faire de bruit.
Oui, mais sur Counter, c'est un exemple qui est particulier, parce que bah tu dois ne pas faire de bruit, alors que dans un Far Cry ou un Call of Duty, bon, tu t'en fiches, quoi. Tu cours vers les ennemis et tu tires dessus, quoi. Clairement.
Ouais, mais c'est pas. Voilà, c'est sûr que dans un Doom, le fait de marcher, j'en ai un peu rien à carrer, quoi.
Ouais, et les graphismes ont très bien vieilli aussi, pour refermer cette parenthèse.
Tout à fait.
Voilà.
Une longue parenthèse, nous allons donc marquer une petite pause musicale. On va s'écouter un petit extrait de la BO de Mario et les Lapins Crétins, la pagaille au royaume. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle Meat Boss Mayhem. Je rappelle que la bande originale a été composée par Grant Kirkhope, le compositeur attitré de Rare pour la N64, qui a fait des musiques magnifiques, sauf pour GoldenEye, du coup, où elles sont quand même très moyennes. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour, et merci Galaxis pour ce petit jingle improvisé.
Toujours.
Tu étais en direct.
Tour.
C'était le piège. Donc Mario et les lapins crétins. Alors, on va commencer par qu'est-ce que c'est, parce que Galaxis ne sait pas du tout ce que c'est. Il est jeune et innocent.
Et non. Je ne suis pas innocent.
Certains ont dit c'est un XCOM-like, sauf que XCOM, qu'est-ce que c'est du coup ? Grosso modo, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, avec des flingues et des déplacements. Je pense que ça résume bien. Je crois que le jeu le plus proche qu'on pourrait citer dans le même genre, alors n'importe quel jeu de stratégie au tour par tour, évidemment, mais là, comme il y a des flingues, il y a des histoires de portée, il y a des histoires de... Enfin, c'est quand même un peu différent, il y a des histoires de système de couverture, donc ça ressemble vraiment à du XCOM. Je pense que le plus proche, ce serait Codename Steam sur 3DS.
Personne n'y a joué.
Alors personne n'y a joué, mais ça y ressemblait beaucoup. C'est effectivement des personnages avec des armes, avec une portée particulière, des effets particuliers, qui peuvent tirer dans un monde qui est en 3D, dans lequel il y a des systèmes de couverture. On peut se déplacer d'une couverture à une autre. La petite particularité de ce Mario et les Lapins Crétins, en plus de son univers un petit peu barré, étant que le système de déplacement fait que on peut charger en fait son adversaire, donc on peut tacler un adversaire, puis se faire projeter par un ami avec une espèce de mouvement de saut complètement délirant, ratterrir sur la gueule d'un autre, ratterrir sur la gueule d'un troisième, se redéplacer pour se planquer, puis tirer. Donc en fait, c'est surtout au niveau des déplacements, je trouve qu'il est un peu foufou, où il casse un petit peu les codes du jeu tour par tour traditionnel, dans lequel en général on peut se déplacer puis tirer, ou tirer puis se déplacer, mais finalement on peut pas enchaîner les déplacements comme on le fait dans Mario et les Lapins Crétins, où là c'est vraiment... Enfin, Drosgar, là où t'en étais, t'as déjà dû commencer à faire des combos un petit peu bourrins à base de je tacle machin, je rebondis sur truc, je tire là-dedans, et puis il y a tous les systèmes de pouvoir de réaction aussi qui sont assez bourrins.
Bah, c'est ça en fait, le truc, c'est qu'on se rend assez vite compte que le jeu est hyper fluide, et ça change de mon XCOM. J'ai pas encore fait le 2, mais j'avais un peu fait le 1, où je me souviens, je crois même que lorsqu'on tire, on peut pas se déplacer après.
Enfin, bon, c'est très classe, statique,
c'est
comme ça.
En fait. Et voilà, c'est même trop statique. C'est-à-dire que si on a fait un mouvement, ou si on a fait une mauvaise manip, eh ben, on est foutu. Alors que là, au final, ça attrape assez vite. Et vraiment, je le prends un peu comme... comme Pokémon, c'est un peu une initiation au RPG, bah là, c'est un peu une initiation au jeu stratégie. Mais ça reste quand même très complet. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé.
Alors, est-ce que tu dirais que c'est une bonne initiation au jeu stratégie, dans le sens où... Moi, je trouve que ça reste super accessible, vraiment, c'est-à-dire qu'on t'explique tout au fur et à mesure, c'est bien expliqué, t'as des batailles où tu peux aller expérimenter le fait que, bah oui, quand t'es en hauteur, tu fais plus de dégâts, donc t'as intérêt à envoyer Luigi, qui est un sniper, ce qui est d'ailleurs assez énorme, en hauteur, parce qu'il va faire plus de dégâts, et c'est quand même à ton avantage. T'as quand même... J'ai l'impression que c'est plutôt une bonne initiation, au sens où moi, j'ai réussi à y jouer avec mes enfants.
C'est-à-dire donc, on rappelle leur âge, quand même
5 et 7 ans.
Quand même.
Donc, et rappelle leur prénom aussi et leur adresse. Mais c'est blague à part, c'est vraiment ce qui laisse transparaître quand on regarde, parce que même sur les streams de Mortel et voir sa chaîne Twitch Nintendo Joe, c'est vraiment très clair, très simple à regarder, enfin à comprendre en tout cas, et ça avait l'air très simple à jouer. Ce qui veut pas dire que le jeu est simple, mais en tout cas ce qui veut dire que si c'est pour effectivement une initiation au XCOM-like entre guillemets, donc au jeu stratégie comme ça, c'est très bien joué.
Alors moi je dirais que j'ai réussi à y jouer avec mes enfants, c'est-à-dire je tenais la manette et je leur disais voilà, bon, Mario il fait quoi, on fait faire quoi à Mario, et puis c'est la gamine qui me disait bah rien, tu fais tacler ce lapin là, puis ensuite tu sautes là. Je lui disais mais attends, si je saute là je vais me faire avoir par ce lapin là. Et tiens, genre ah oui, bon alors tu fais ça. Et j'ai remarqué que ça marchait plutôt bien, c'est à dire que les enfants répondaient bien au truc, ils sont un peu pris au jeu, c'est à dire qu'ils ont vraiment une fois qu'on leur a expliqué un petit peu les subtilités, qu'ils ont vu que bah ouais, mais si je fais ça je me prends une rouste, et attention lapin Peach va mourir, faut aller la sauver, faut aller faire ci, faut aller faire mi. Ils ont très bien compris. Maintenant, j'ai un peu peur. Alors, je suis un grand habitué des jeux de stratégie en tour par tour, puisque j'ai fait pas mal de Fire Emblem et quelques autres jeux genre Advance Wars et autres. J'ai un peu peur que ce soit un peu simple. Je suis arrivé aux trois quarts du jeu, et jusqu'à présent, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Je sais pas si, Drosgar, tu as déjà eu... Parce que t'as fini le premier monde et t'es à peu près à la moitié du deuxième, ce que tu m'as dit tout à l'heure.
C'est bien ça. Bah, en gros,
est-ce que t'as déjà rencontré des difficultés ou pas du tout? Je veux pas dire que j'ai jamais perdu de partie, j'en ai perdu une ou deux, mais j'ai jamais fait comme des Fire Emblem où il faut recommencer 10 fois la même carte parce que tu t'es loupé, quoi.
Bah, à mes yeux, genre, limite, le jeu, il est un peu cul entre deux chaises, en fait, parce que, avec son style un peu enfantin, avec les appâts crétins, et puis leur humour habituel, hein, ponctué de etc.
C'est qu'il y a beaucoup des
bah. Excellent, ce
bah. En fait, tout l'univers pourrait beaucoup attirer les enfants, mais au final, bah, l'aspect stratégique pour les rebuter un peu, ils sont trop jeunes, parce que là, tu joues avec eux, donc ça les aide, mais je sais pas si d'eux-mêmes, ils iraient forcément jouer à ça, surtout à petite.
Honnêtement, je suis pas certain. Voilà. Ça les intéresse parce que, finalement, c'est pratiquement un bon jeu de coop, c'est comme les jeux de... les jeux de stratégie au tour par tour, c'est pas mal pour ça. Les jeux d'aventure aussi, ça marche bien. Quand t'es plusieurs sur le canapé, les jeux avec des énigmes ou les trucs comme ça, où tu peux réfléchir tous ensemble à comment tu vas faire pour arriver à faire un truc, ça marche bien.
Et je trouve qu'on a le temps de se poser. Et tout.
Voilà, comme t'as le temps de te poser, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps d'interagir, et c'est vrai que même en jouant avec ma femme, en jouant avec Muse, même quand j'avais pas la manette, je m'amusais bien parce que je disais vas-y, là, si tu tacles là, fais gaffe parce que tu vas te retrouver là. C'est le genre de jeu qui se prête super bien à finalement du coop à une seule manette. Et ça, effectivement, je pense que les enfants, ce qui leur plaît, c'est aussi de jouer avec leur papa qui va leur dire attention, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Donc là-dessus, ça me pose. Je pense que c'est plutôt pas mal, mais j'ai vraiment peur que le jeu soit trop simple. Jusqu'à présent, j'ai vraiment pas rencontré de difficultés qui m'obligent à adopter une stratégie particulière ou à adapter réellement mon style de jeu ou mes personnages. Il y a vraiment des niveaux où tu bourres comme un sac et dans le pire des cas, t'as pas le perfect à la fin, quoi.
Bah voilà, en fait, le truc, c'est que d'un côté, il est peut-être trop dur pour les jeunes, mais peut-être trop simple pour les puristes. Après, il s'adresse sûrement à ceux qui n'ont pas trop l'habitude des jeux stratégie, parce que comme tu l'as dit, t'as fait pas mal de Fire Emblem, donc tu connais mécanique, tu sais comment ça marche, même si là, au final, t'as quand même tout le système de couverture, de visée, vu que c'est quand même à distance, tu connais quand même les concepts de base de stratégie tour par tour. On va donner ça à, je sais pas, à Galaxy, si t'as pas l'habitude des jeux stratégie tour par tour, peut-être qu'il y arriverait peut-être un petit peu moins bien que toi. Il va pas forcément en chier, parce que je dis pas que c'est un jeu dur, au contraire, mais bon. Moi, en gros, si tu veux, c'est au premier chapitre, donc dans le premier monde, c'est à peu près au milieu du monde, donc le niveau juste avant le sous-boss, je sais pas pourquoi je dis ça.
Le mid-boss.
En anglais, c'est mid-boss.
C'est pour ça que ça m'a un peu perdu.
Parce qu'il est bilingue.
Le niveau juste avant le mid-boss, que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de difficulté. J'ai pas du tout été face à un problème quelconque, hein. Mais en fait, c'était un niveau où il y avait deux hauteurs différentes, si vous voulez, avec justement des plateformes en haut, et en bas, une sorte de petite vallée. Et c'est en m'apercevant que les lapins pouvaient escalader la vallée, en fait, en sautant sur leurs copains, et pas seulement en montant par les tuyaux, donc par les accès prévus à cet effet, que je me suis dit, quand même, il y a une certaine dimension stratégique et plus poussée que ce à quoi je m'attendais à la base. Parce que vraiment, je pensais que ça allait être un jeu limite où j'allais m'ennuyer. Je l'ai pris parce que, bah, franchement, le concept de base, ça me branchait pas mal, et puis ça fait un jeu sur Switch. Parce qu'on se le cache pas, il y en a pas non plus énormément. Mais je m'attendais pas à ça. Et en fait, après, au niveau du mid-boss, j'en ai pas chié du tout. Ça a été relativement simple, j'ai perdu personne. Mais j'ai eu un petit peu de pression quand même, et c'était sympa, voir que je finis avec un perso qui reste seulement 25 PV, sur peut-être 200, je sais plus, ben c'est vrai que ça fait un petit quelque chose quand même, on se dit qu'on a un petit peu bataillé, et ça m'intéresse. J'aime pas en fait les jeux où il y a une trop grande frustration, et où je dois recommencer 20 fois le niveau, comme dans certains Fire Emblem, où ça a plus tendance à me dégoûter qu'autre chose, mais j'aime pas non plus si je roule totalement sur le jeu. Et là, au final, la petite pression, j'espère que au fil du temps, ça s'accentue. Alors, d'après ce que tu me dis, c'est pas forcément le cas.
Alors, est-ce que mon avis est peut-être un peu biaisé sur le sujet?
Ouais, moi j'ai plusieurs questions.
Questions extérieures. On va commencer par les questions de Galaxies. Il y a peut-être des choses que t'as pas compris sur les déplacements et autres, parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités de déplacement. Je trouve que c'est vraiment là où c'est super original.
Plus par rapport à difficulté. Parce que, alors, déjà, est-ce qu'il y a un système de scoring?
Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où si tu finis une mission, enfin une mission, je pense qu'on peut appeler ça comme ça.
Un combat.
Si tu finis un combat, donc tous les combats se déroulent sur une arène prédéterminée avec tout un tas de trucs à faire. Il y a des élévations, il y a des blocs que tu peux casser, il y a des ennemis qui peuvent, alors soit sont en nombre fixe, soit apparaissent au fur et à mesure. T'as des boss, parfois t'as un objectif, faut atteindre telle zone, faut faire atteindre telle zone à un personnage secondaire qui ne peut pas se défendre. Bref, donc tu as ton objectif de mission. Quand tu remplis ton objectif de mission, si tu le fais en dessous d'un certain nombre de tours et sans perte de personnage, tu as la mention parfait, qui en fait fait une espèce de score dans le jeu. Et en fait, les missions sont groupées par une, deux ou trois. Et quand tu as fini une série de une, deux ou trois missions, en fonction des mondes, eh bien, tu as un score qui dit, voilà, tu as bronze, argent, or, et or étant le maximum, c'est-à-dire que tu as fait parfait à toutes les missions.
Donc c'est plus un système de mention que de réel score.
C'est plus
tu gagnes de l'or.
Tu gagnes beaucoup de pognon quand tu fais ça. C'est-à-dire que ça t'avantage parce que avec le pognon, tu peux acheter plus d'armes. Et pareil, si tu finis les missions en ayant perdu peu de personnages, tu vas gagner plus de sphères de compétences. Sphères de compétences qui vont te permettre d'améliorer tes personnages et d'avoir. Il y a, je crois, trois ou quatre catégories différentes. T'as genre, tu peux améliorer leur vie, tu peux améliorer leur déplacement. Alors, le déplacement, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer plus loin ou ils peuvent, par exemple, tacler deux adversaires dans le même tour, ce que tu peux pas faire au départ. Sauter
tout
haut.
Ah oui, d'accord.
Quand ils sortent des tuyaux, ils peuvent aller deux ou trois cases plus loin. T'as les trucs d'attaque, t'as les trucs de défense. Enfin bref, tu peux vraiment... T'as un arbre de compétences par personnage, avec des compétences uniques, avec des compétences communes. Donc tu as grandement intérêt, si tu veux, à finir les missions avec un bon score.
Mais donc, du coup, quand
mais
tu
le,
dis...
Mais c'est juste une mention. Le... C'est, tu as fait...
Ah oui.
Au monde 2, au chapitre 8, première mission, t'as fait parfait. Chapitre 8, deuxième mission, t'as fait parfait. Tu gagnes de l'or. Point.
D'accord. Donc c'est pas un réel score comme sur arcade, etc.
C'est pas vraiment un système où on te dit, je sais pas, c'est pas le rang S, quoi.
Oui, d'accord.
C'est
je vois.
Parfait. T'as parfait, t'as bien quand t'arrives à finir la mission, et puis après, je crois que t'as mauvais quand t'es vraiment une grosse burne.
Je sais pas, j'ai jamais eu.
Mais alors,
j'en ai jamais eu, mais je l'ai vu.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir... parce que quand vous dites le jeu est pas dur, il peut ne pas être dur déjà dans les missions, dans le fait de les faire. Mais après, il peut être compliqué pour, par exemple, un perfectionniste qui veut obtenir que des parfaits.
Alors, moi, je pense que c'est là où, effectivement, le truc se joue. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de stratégie au tour par tour, les mécaniques sont très simples, très claires, et je pense qu'on se prend suffisamment de... En fait, on se prend suffisamment de dégâts quand on fait une erreur pour comprendre qu'on a fait une erreur. Ce qui, dans un jeu de stratégie au tour par tour, est quand même l'essentiel. Dans Fire Emblem, quand tu fais une erreur, tu la payes cash, et c'est extrêmement punitif. C'est fait pour.
Et même là, dans XCOM, parce que tu vas vite à perdre un personnage.
Exactement. Là, comme t'as pas de permadeath, si tu veux, t'as pas de... Enfin, la punition est un petit peu moins dure, entre guillemets.
Ouais.
Parce que ton personnage... Alors par contre, tu peux pas... ton personnage est assommé, s'il a plus de points de vie, il est assommé sur le champ de bataille, il peut plus rien faire. De toute la partie. Donc tu finis
mais
ta mission
contre,
sans le
personnage.
Mais
au prochain combat, c'est bon.
Mais au prochain combat, il est là. Sauf d'accord. que, alors c'est là où il y a une petite subtilité quand même, quand tu as plusieurs missions à l'intérieur d'un chapitre, en fait, tu ne récupères pas l'intégralité de tes points de vie entre les missions.
Ah, d'accord.
Donc,
ce qui
si
permet
tu...
quand même d'avoir,
voilà.
d'avoir un
si
système
tu as,
un peu punitif.
Si tu t'es fait tuer un personnage qui avait 200 points de vie, à la fin de la bataille, quand c'est fini, il va regagner 75 ou 100 points de vie, mais il démarrera pas à 200 points de vie à la bataille suivante.
D'accord.
Donc, en fait, c'est pas si simple que ça sur certains trucs. C'est-à-dire que, mais c'est plus sur à la fin d'un chapitre. De toute façon, tu regagnes tous tes points de vie.
Oui.
Donc, c'est plus sur les chapitres où il y a plusieurs missions où effectivement, ça, si tu te foires un peu à un moment, ça peut commencer à devenir galère.
Bon. Non, et
ceci
et...
étant dit,
oui.
Il y a beaucoup de missions
pardon.
Que j'ai faites totalement au schnapps en mode à la va te faire foutre, en réfléchissant absolument pas, en essayant juste de faire des gros dégâts, sans réfléchir à ce que j'allais encaisser, sans réfléchir à mon placement, sans faire attention aux différents obstacles du décor, vraiment total à l'arrache. Et dans le pire des cas, je finissais à bien parce que j'avais fait trop de tours ou que j'avais perdu un personnage, et des fois j'arrivais à le finir en parfait. Donc pareil, je pense que si t'as pas l'habitude, arriver à finir toutes les missions en parfait, c'est pas si évident que ça. Si t'as l'habitude, même en y allant un peu à l'arrache, tu vas passer, quoi.
D'accord. Et donc du coup, la difficulté se joue pas réellement sur cet aspect-là. Je me demandais en fait, parce
que
j'ai vu des choses qui disaient qu'il était plutôt difficile, enfin qui était qu'il avait une certaine difficulté contre et que c'était une surprise d'ailleurs. Donc c'est pour ça en vous écoutant, ça.
Il y a aussi beaucoup de défis, plein de choses annexes en fait par rapport à l'histoire principale.
Oui. Alors justement, j'avais demandé, est-ce que c'est pas une fois la trame principale terminée? Qu'il y a une sorte de backtracking en fait, avec par exemple des niveaux avec des défis supplémentaires, des contraintes en plus, etc.
Tu peux revisiter les mondes, donc le truc est séparé en mondes dans lesquels tu te balades. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de cet overworld parce qu'il est absolument atroce. Donc tu te balades dans une espèce de carte du monde, et en fait, les défis que tu as sont sur la carte du monde. Tu rentres pas dans un niveau dans lequel tu vas avoir un setup particulier. Le setup existe dans le monde, tu rentres, une fois que tu l'as battu, voilà, c'est fini. Et en fait, quand tu revisites le monde après, donc tu as systématiquement une mission, enfin un chapitre caché, dans lequel tu
ouais.
as éventuellement plusieurs missions, qui là est un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que là, effectivement, les mecs montent un petit peu le niveau de difficulté, tu commences à avoir des trucs un peu bourrins, et tu as des défis, en fait, qu'il faut trouver. En général, tu as, je sais pas, entre 8 et 10 défis. Effectivement, là, les défis, c'est vraiment compliqué. C'est genre éliminer 15 ennemis en 3 tours. Et éliminer 15 ennemis en 3 tours, même quand tu vois à peu près ce qu'il faut faire, c'est un peu chaud du cul, quoi.
D'accord, donc la difficulté joue éventuellement sur cet aspect-là, en fait.
Moi, j'aurais préféré, à titre personnel, qu'il y ait un niveau de difficulté réglable, c'est-à-dire que dans les menus ou dans les options, on puisse dire « je veux jouer en difficile et pas en facile ou en normal ». Là, la quête principale, il n'y a pas de niveau de difficulté. Ce qui fait que je pense que...
Si, quand même, parce qu'en fait, au début de chaque combat, tu peux choisir un mode facile, ça te le propose à chaque fois.
Oui,
ça peut être intéressant pour les enfants, par
effectivement,
exemple.
Effectivement, alors voilà, ça, pas précisé. Merci de Drosgar, parce qu'effectivement, j'avais pas précisé. Si t'appuies sur Y pendant quand tu entres en fait dans une mission d'un chapitre, on te montre l'ensemble du terrain, tous les ennemis qu'il y a. On te dit, bah là, il y a un ennemi de tel type, de tel type, de tel type, de tel type. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont réussi à faire des jeux de mots à la con avec à peu près tous les ennemis, tous les lapins ennemis, ce qui est quand même assez balèze. On te montre tout ça, et en fait, si t'appuies sur Y à ce moment-là, c'est écrit en bas de l'écran, tu passes en mode facile, c'est-à-dire que tous tes personnages récupèrent tous leurs points de vie, et t'as un autre bonus qui est je sais plus quoi, je crois que tu fais plus de dégâts ou quelque chose comme ça.
Ah, donc ce qui est plus pratique, du coup, si ce qui est. On voit vraiment que c'est orienté pour, entre guillemets, la coop canapé, comme tu disais, c'est-à-dire si on veut faire jouer des enfants, etc. Ce qui permet de pas ruiner sa partie, enfin, de pas avoir à recommencer. Une partie en facile,
oui.
Mais d'un autre côté qui fait pas non plus passer constamment ta partie en facile, etc. Ce qui permet de faire tester.
Voilà. Et puis même à la limite, s'il y a une mission sur laquelle t'as buté et t'y arrives pas, et en réalité tu te rends compte que c'est parce que t'as pas assez de points de vie sur tel perso ou tout ça, si t'appuies sur le truc facile, bah ok, ça remet des points de vie à tout le monde, et comme ça, bah voilà, t'es peinard, tu fais ta mission. Je pense que c'est plus un système anti-frustration. Qu'un vrai mode facile. Ce que j'espère un peu, mais je sais pas si j'aurai le courage de refaire le jeu. Le jeu est très agréable à faire, mais il y a quelques points qui me cassent un peu les couilles, donc je suis pas certain d'avoir envie de le refaire. J'aimerais bien qu'on puisse débloquer un niveau de difficulté supplémentaire à la fin du jeu. Je ne sais pas si c'est le cas.
Voilà, je sais pas le dire.
Je ne sais pas du tout si c'est le cas. J'espère que c'est le cas parce que ce serait vraiment intéressant.
Mais du coup, vu qu'on arrive à vraiment parler des points frustrants du jeu.
Sûrement avec un amiibo.
C'est un peu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les amiibo aussi. T'as essayé ou pas, Mortal?
Pas du tout, mais faudrait que j'essaye. J'ai pas du tout essayé, j'ai absolument pas pensé.
On peut utiliser que ceux de Mario, Luigi, Peach et Yoshi de toute façon. Enfin, n'importe quel type, hein. Donc Mario ça peut être n'importe lequel, Yoshi ça peut être ceux en laine, mais que ceux-là.
Bah, faudrait que j'essaye pour voir ce que ça fait parce que j'ai vraiment. Mais alors, j'ai pas du tout pensé à tester ça. J'y pense jamais en fait, mais. Voilà.
Mais j'ai vu ça justement en parcourant le merveilleux hub. Qui fait office de centre du jeu, qui n'est pas bien conçu du tout en fait. On se perd, on comprend pas vraiment ce qu'il y a et c'est pas clair.
Ouais, je suis d'accord. Honnêtement, j'aurais préféré avoir un menu. C'est con, hein, je sais, mais j'aurais préféré avoir un menu clair avec le hub du jeu. Alors heureusement, il y a aussi un menu puisque quand t'appuies sur X, t'as le QG de combat qui te permet d'aller monter tes compétences, acheter des armes et tout ça à n'importe quel moment. C'est-à-dire que t'es pas obligé de revenir au château de Peach qui sert un peu de hub central. Qui te sert un peu de hub central, t'es pas obligé d'y revenir systématiquement, heureusement.
Oui, parce qu'au final, on n'y va pas souvent.
Au final, on n'y va pas souvent. Mais moi, je trouve que l'overworld, de manière générale, c'est-à-dire les mondes que tu parcours, alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de petits trucs dedans, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de trucs marrants, il y a les Goombas qui essayent les toilettes japonaises, là.
Oui.
T'as les chiens géants avec le canard dedans, t'as souvent des lapins crétins qui font les cons dans le fond du décor en faisant. Donc il y a plein de petits détails rigolos et c'est bien, ça rend le truc assez vivant.
Mais le jeu est beau.
Et on en parlera peut-être un petit peu après du jeu est beau, parce que c'est quand même intéressant, je trouve aussi.
Oui, il est très beau.
Mais je trouve que cet Overworld est super lourd et en fait, honnêtement, il y aurait juste eu un menu ou une carte très simplifiée à la Mario Bros 3 pour se déplacer de mission en mission et de chapitre en chapitre. Franchement, je pense que j'aurais préféré.
Mais parce quand que... tu parles de l'Overworld, c'est l'endroit où tu te balades librement là avec petit aspirateur.
Voilà. Tu suis le Roomba avec des oreilles et de lapin.
Entre les missions en fait.
D'accord.
Et tu peux aller débloquer des. Enfin, si tu veux, de temps en temps, tu vas résoudre une micro énigme. C'est-à-dire, tu vas aller appuyer sur un interrupteur, ça va libérer un bloc et tu vas pouvoir ramasser un coffre dans lequel tu vas avoir une arme, une photo, un truc en 3D, un diorama, une musique. Ce que tu veux. Donc, c'est sympa parce que si tu veux, c'est un jeu dans lequel il y a finalement plein de bonus, comme ça, c'est-à-dire que tu as une galerie avec tous les personnages en 3D, tu as un sound test dans lequel tu pourrais écouter toutes les musiques du jeu, donc c'est vraiment sympa, hein, j'ai vraiment pas de soucis avec ça. Mais juste, je trouve ça un peu lourd à la longue, et franchement, se balader dans l'Overworld, il y a des fois où tu te dis, ah, mais pour atteindre tel chapitre, il faut aller résoudre une énigme à la con qui consiste à pousser 3 blocs.
Voilà. Alors, je suis content parce qu'il y a Don Kusei qui dit « Marrant, j'ai justement la vie inverse de Mortal. J'adore les mondes, et les phases d'exploration sont celles que je préfère. » Et ça m'assure parce que moi aussi, je les apprécie assez. Et en fait, même si elles sont pas forcément hyper marquantes, je vais pas m'en souvenir plus tard, ça aurait vraiment manqué. Et passer d'un combat à un autre avec seulement une carte simplifiée, je trouve que le jeu aurait peut-être été plié trop vite. Là, au final, ça nous laisse le temps de nous poser un peu, ça pose un univers. Et ben voilà, je le redis encore une fois, le jeu est beau. Et surtout, il y a toujours plein de petits détails. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir tout ça et de se balader un peu dans ce monde qui est un peu taré au final. Parce que le pitch de base, c'est quand même les lapins crétins qui font un crossover avec Mario. Parce que
il y a un scénario.
Il y a un casse. Mais oui, il y a un scénario.
Parce qu'il, non, mais il y a un scénario. C'est un vrai scénario. Problème. Hein.
Parce que
non, le scénario dans un jeu vidéo, c'est comme le scénario dans un film porno. Tu t'attends à ce qu'il y en ait un, tu t'attends pas à ce qu'il soit bon.
Non, ça dépend du jeu, ça c'est la philosophie Nintendo.
J'aime pas les RPG. Non, voilà, bah, excuse-moi, je t'ai interrompu, Drosgar.
Il continue ses tweets en disant « Je trouve que ça participe à la variété du jeu, je m'ennuierais vite s'il s'agissait seulement de phases de stratégie. » Donc, en fait, ça me rassure de voir qu'il pense un peu comme moi. Et au final, ouais, le scénario, c'est assez simple. Une scientifique a créé un casque qui permet de fusionner des choses entre elles. Jusque-là, facile. Sauf que les lapins crétins qui débarquent dans l'avalanche temporelle, donc c'est lié avec les autres jeux des lapins crétins, voilà, ça c'est bien.
Ça c'est le truc où t'es là genre « What the fuck ?»
Ouais, non, mais comme toujours. Fusionnent en fait avec le monde de Mario. Et il commence à tout fusionner à l'intérieur, entre le monde réel, le monde de Mario, les lapins et tout. Et au final, ça fait plein d'objets un peu particuliers. Ça fait des objets de notre quotidien qui vont être géants, par exemple, d'autres qui vont être minuscules. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, à voir aussi. Parce que du coup, se balader à côté, j'en sais rien, moi, d'un caleçon géant, et ben c'est con, mais moi, ça, je trouve ça rigolo. Non, j'ai 8 ans.
Voilà. J'ai pas dit que c'était pas rigolo, j'ai pas dit que t'avais plus de 8 ans.
On dirait qu'il est devant le juge et qu'il avoue tout. Oui, j'avoue, je trouve ça drôle, un caleçon géant.
Non, mais un caleçon géant, je trouve ça marrant. Et un lapin crétin frisé qui. Gelé. Qui tient un caleçon et Bipo fait la remarque, plus jamais ils ne seront réunis. Oui, je trouve ça drôle. Ok. Non, mais il y a vraiment des passages drôles, faut quand même le reconnaître. La version française est plutôt sympa. Il y a vraiment des réactions très marrantes, que ce soit des personnages de Mario ou des personnages des lapins crétins. Il y a Lapin Peach qui fait des selfies tout le temps dès qu'elle bat un boss et tout. C'est vraiment, il y a des fois, c'est vraiment à mourir de rire.
Et oui.
Vraiment. On se plie bien. C'est une ambiance très bonne enfant. J'ai pas de soucis là-dessus. Je trouve juste que dans l'ensemble, le truc est assez lourd. Parce que finalement, Bipo. Ou Bip Zero, d'ailleurs, moi je l'appelle Bip Zero, je sais pas si c'est un 0 ou un O. Un jour faudrait qu'on regarde quand même parce que.
J'ai jamais prononcé le nom dans ma tête en fait, à chaque fois je le lis pas.
Bah moi je le lis et dans ma tête je lis Bip Zero. Donc je sais pas pourquoi. Bref, je trouve que le personnage est finalement un peu lourdingue et il y a des fois où.
Ah, heureusement qu'il parle. Certaines.
Alors il parle, non, enfin.
C'est le seul qui parle d'ailleurs.
C'est le seul qui parle.
Incroyable.
Il y a pas vraiment de dialogue, enfin il y a des boîtes de dialogue, mais il y a pas de dialogue parlé.
Ils font parler un aspirateur robot.
Voilà, c'est ça. Et ton Roomba bientôt parlera. Hein. Dégage de mon chemin, je veux dominer le monde.
Ah mais moi, on peut le mettre en allemand. Du coup, c'est très drôle. Quand il dit qu'il va charger, on a l'impression qu'il engueule toute la famille.
Artun, c'est une gueule.
Pardon.
Parce que c'est très moche l'allemand, hein, faut pas se cacher.
Non, pas du tout. C'est une langue extrêmement poétique que tu ne comprends pas.
Ça doit être ça, j'ai pas de culturel.
Je vous raconterai une anecdote, mais hors antenne, parce que sinon ça risque d'être un peu long.
D'accord.
Bref, donc je trouve que Bip Zero, il a des remarques rigolotes de temps en temps, mais si tu veux, dans les premiers chapitres, tous les deux mètres, il s'arrête et il te dit « Ah là là, dis donc, il faut vraiment absolument arrêter ce lapin superfusion avant qu'il foute la merde partout. » Je veux dire, sans deck, c'est bon, on a compris le but du jeu, c'est pas la peine d'en rajouter. Stop.
Non mais encore une fois, c'est un jeu quand même qui s'adresse un peu pour les enfants. C'est les lapins crétins. Enfin, tu t'attendais
à quoi? Les enfants ne sont pas des poissons rouges. Ils se souviennent.
Je vois pas
pourquoi
ça fait enfant les lapins crétins.
Entre deux trucs. Arrêtez. Non mais voilà. Donc autant il y a des trucs très drôles, c'est-à-dire que de temps en temps tu te balades dans le décor et tu t'appuies sur A et Bipo fait une remarque à la con et des fois elles sont très drôles. Ok, très bien. Et heureusement que c'est optionnel. Et il y a des fois où je me dis mais ta gueule, je veux jouer.
Je Est-ce que c'est pas couilles, peut-être le problème jouer. Ubisoft, ça? La partie
non,
Ubisoft.
Le problème, c'est Mortal.
Parce que...
non. Non, je suis un vrai problème. Hein.
Non, mais parce que dans les jeux Ubisoft, c'est typiquement ça avec les PNJ qui te parlent toutes les deux minutes pour créer un
Bravo,
semblant
tu
de...
as sauté.
Non, mais c'est ça. Et bah, même, je reviens à Far Cry parce que Far Cry 3, c'est le jeu Ubisoft que j'ai sûrement le plus saigné. Et vraiment, genre, on peut pas se balader deux minutes sans qu'il y ait tous les PNJ de la Terre. Qui t'interpelle et j'ai compris, je vais sauver la région.
Tu veux acheter
d'accord.
Une montre, regarde, je t'ai vendu une montre pas chère. T'as vu, regarde, il y a des montres, c'est pas cher. Moi j'ai l'impression d'être dans un souk marocain, dans ce genre de cas-là. C'est t'es abordé toutes les 10 secondes par un connard qui veut te vendre un truc. Mais je trouve que d'ailleurs, à propos
est-ce connard, c'est un aspirateur robot.
Far Cry Blood Dragon avec son faux tutoriel pendant le jeu était à mourir de rire justement pour ça, parce que c'était très méta comme blague de la part d'Ubisoft de faire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'au début de Far Cry Blood Dragon, en fait, le truc te dit pour avancer, appuyez sur la touche avancer. Et en fait, le personnage dit sans déconner. Et puis au bout de. C'était pour sauter, appuyez sur la touche de saut.
J'ai trouvé ça vachement hypocrite. Parce que, d'accord, c'est drôle, c'est méta, machin. Mais de l'autre côté, ouais, d'accord, mais enfin, il te saoule quand même pendant 5 minutes. Je veux dire, c'est pas comme dans Doom. Où le héros envoie balader le tutoriel, tu vois.
Envoie balader le... Mais pas le tutoriel, envoie balader le scénario.
Oui, oui. Non, mais c'est dans... Je veux dire, tu sais, quelque chose comme ça. Genre, il fait taire les trucs de dialogue avec avance sur Z pour avancer, machin. J'ai trouvé un côté un peu hypocrite dans le sens où, bah, ouais, on se fout de ça, mais on te le fait quand même, quoi. Genre, passe quand même par la zone de tuto.
Il y a un côté un peu second degré, quand même, dans le truc.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas totalement premier degré. Comme dans pas mal de jeux. Je crois que c'est le premier Halo qui te, faisait viser.
Très très premier degré. Non, alors tu refais cette blague, viser des pointeurs, mais je viens personnellement jusqu'à Clermont-Ferrand te botter le cul.
Et c'est quoi la blague?
Il va dire à l'huile.
Alors les filles, j'habite à Clermont-Ferrand, donc vous pouvez. Pour revenir sur les vrais problèmes du jeu que tout le monde peut comprendre. Alors, je sais pas si tu l'as partagé, Mortal, celui-là, mais je pense que oui. La caméra pendant les combats. En fait, je trouve qu'elle est problématique dans le sens où elle a que 4 angles de vue, on peut pas dézoomer avec, et à moins de passer en caméra tactique qui va être un peu vue de dessus, en fait, on n'a jamais une bonne vue de tout le terrain de combat. Et ça, je trouve ça dommage, parce que vu que les maps sont en général un peu grandes, on se perd facilement, parce que les décors sont un peu tous. Et contrairement à XCOM, on peut zoomer, dézoomer comme on veut, bouger la caméra librement, où on peut voir vraiment où on en est pour anticiper les mouvements et tout, là, on peut même pas dézoomer, et je trouve ça dommage. Il n'y a pas de minimap, il n'y a rien en fait, et au final bah c'est presque décevant, justement parce que c'est pas quelque chose de con à penser, et pourtant ils l'ont pas fait.
Alors je pense que l'absence de minimap est volontaire, parce que l'objectif,
bah ça n'a pas vraiment d'utilité. Non, il est déjà très clair comme ça.
Oui, mais au moins dézoomer, ou au moins pouvoir bouger la caméra.
Alors, ah oui, ça, vraiment, alors ça je dis pas parce que j'ai pas joué.
Je pense
mais
que l'absence de mini-carte.
L'interface, c'est. Oui.
Voilà, donc l'absence de mini-carte, je pense qu'elle est, volontaire simplement pour pas rendre l'interface confuse. C'est une interface qui est extrêmement simplifiée. Et je pense que si l'objectif du jeu c'était l'accessibilité, j'ai quand même l'impression, à travers tout ce qu'on s'est dit, avec le niveau de difficulté, avec la façon dont ça fonctionne, que l'objectif c'était quand même que ça reste très accessible, je pense que la mini-carte est pas forcément quelque chose d'indispensable. Ceci étant dit. Je suis d'accord avec Drosgar sur un truc, c'est que dès que tu as un personnage qui a une portée énorme, par exemple, moi je joue avec une équipe où j'ai Mario, Lapin, Peach, Luigi, jouant au sniper, donc d'habitude les armes ont à peu près 10 cases de portée, donc c'est-à-dire que quand tu sélectionnes Mario et que tu sélectionnes une arme, tu as une espèce de halo rouge en fait sur la carte qui te dit voilà, je peux tirer sur tout ça. J'ai tout ça et t'as ma portée de tir. Oui, il est lourd avec ça, mais ça va durer toute la soirée, je pense.
Incroyable, ce gosse. Mais il faut le mettre dans sa chambre, hein, pendant
le jeu. Oui, je pense
qu'à
un moment, il va... Voilà, mais moi, j'avais dit que c'était la garderie, mais je constate que c'est effectivement vrai. Donc, tu as un machin comme ça. Quand tu as Luigi qui a 15 cases de portée, effectivement, tu vois pas toujours sur quel ennemi il peut tirer avec les angles de vue. Néanmoins, le problème n'est quand même pas arrivé très souvent. Donc je dirais pas que c'est un problème. J'aimerais bien de temps en temps dézoomer, mais en fait la carte tactique me suffit en général largement pour arriver à regarder quelle est ma portée, quels sont les ennemis à portée, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je vais me faire fumer si je fais ça. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage finalement. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas passer en temps réel finalement en carte tactique. C'est-à-dire que quand on passe en carte tactique, on appuie sur X et on passe en carte tactique, et à ce moment-là tu peux plus bouger les personnages. T'es obligé de repasser en mode normal, en gros, pour rebouger les personnages.
Contrairement à Fire Emblem, où je
pense que
ouais,
la carte tactique, c'est une caméra qui est plus haute pour avoir une vue de 2D,
c'est ça ? La caméra se redresse, enfin, est un peu plus haute, est un petit peu dézoomée. Et en fait, quand tu peux naviguer sur toute la carte, et quand tu passes sur un ennemi, tu vois sa zone de déplacement, sa zone de tir, des trucs comme ça.
Comme dans Dragon Age. Je sais pas si tu l'as fait.
Non, j'ai pas fait. Donc je peux pas te dire. Mais tu vois, dans un Fire Emblem, par exemple, tu peux pointer sur un personnage adverse, appuyer sur A et ça va te dire exactement sa zone d'attaque.
D'accord.
Là, tu peux le faire, mais seulement en caméra tactile. C'est tactique. Donc si tu reviens à la caméra normale, n'y a pas l'affichage de ça qui revient sur la carte.
D'accord.
Donc tu peux l'afficher, mais une fois que tu reviens à la caméra normale, ça s'efface. Donc tu peux pas maintenir en permanence affiché le fait que tel ennemi peut te fumer si tu vas à tel endroit.
Ah oui, donc ce qui est un peu
ce qui
empêche quelques jeux tactiques.
Voilà, ce qui d'un point de vue tactique est quand même toujours un peu gênant. Même si, encore une fois, j'ai l'impression que le focus est quand même beaucoup plus sur le mouvement et les déplacements que réellement sur le fait de... Fire Emblem, au bout d'un moment, quand tu commences à jouer comme ça, il y en a... Enfin, ça dépend de ton style de jeu, ça dépend des persos que tu joues et tout ça. Si Antique c'était là, il pourrait vous le dire mieux que moi. Mais à un moment, ça se transforme quasiment en un jeu de position, dans lequel finalement tu vas te débrouiller pour toujours être hors de portée de l'ennemi, ou pour aller l'attirer à certains endroits, parce que tu vas être pile dans sa zone d'attaque, et ainsi de suite. Là, le fait d'enlever cette option, ça t'empêche de faire ça. Ça, entre guillemets, t'oblige à jouer dans le mouvement. Donc, oui, je sais alors, pas si c'est volontaire ou pas.
C'est vachement plus fluide, c'est justement ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que c'est beaucoup plus fluide qu'un XCOM. Et c'est vrai que dans une optique de jeu un peu pour les... Comme tu disais pendant le live, Fisher-Price, dans le sens mon premier XCOM, c'est je trouve ça beaucoup moins frustrant. Enfin, ça a l'air en tout cas à jouer. Beaucoup moins frustrant, dans le sens où tu peux faire ce que tu veux, quoi, vraiment. Tu n'es pas limité.
Je trouve vraiment... Tu as le droit à l'erreur. Alors, il y a quelques erreurs que tu vas quand même payer cher, mais la plupart du temps, tu as le droit à l'erreur, ça ne te coûtera pas grand-chose. C'est-à-dire, faire un mauvais déplacement à un endroit ne te coûtera pas grand-chose. Donc, tu as le droit à l'erreur. Les déplacements sont vraiment super simplifiés, tout ça, et effectivement, le jeu est extrêmement fluide. Maintenant, ça veut dire que tu perds certains aspects. Typiquement, tu ne peux pas annuler un déplacement.
Et ça, moi, c'est-à-dire
ça triste.
Dans un Fire Emblem, tu peux aller à un endroit... Et avant de confirmer, t'appuies sur B, puis pouf, tu reviens en arrière, quoi. Tu vois ? Là, tu peux pas. Tu t'es gouré, t'as appuyé sur A, ben, le personnage va se déplacer jusqu'à cet endroit-là, et t'as plus de déplacement.
Ah oui, d'accord, je vois. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé.
Une fois que c'est lancé, c'est lancé.
Alors, ouais, d'un autre côté, t'es beaucoup plus... Alors, j'ai pas joué à Fire Emblem, encore une fois. Mais d'un autre côté, tu peux te déplacer sur toute la map, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment handicapant ?
Oui, parce que de temps en temps, ça arrive de se gourer et de pas placer correctement ton curseur.
À cause d'un film, par exemple.
Voilà, et tu te retrouves totalement à découvert.
Ah oui, d'accord.
Alors que t'avais prévu d'être planqué derrière un truc, quoi. Et c'est un peu con. Alors, autant sur certains déplacements, je le comprends. C'est-à-dire, quand tu fais Mario, ou tu fais genre, je tacle le premier lapin, je rebondis sur Lapin Peach, j'écrase un deuxième lapin, j'écrase un troisième lapin au rebond, je vais me planquer derrière et je tire, c'est normal que le jeu fasse tout ça d'un coup. Ça renforce aussi la dynamique. Ça fait que le jeu a l'air très très dynamique. Voilà, il y a quelques manquements, on va dire, par rapport au jeu de stratégie tour par tour un peu standard. Je pense que c'est volontaire pour rendre le jeu pas forcément plus accessible, mais plus dynamique. Par exemple, typiquement, tu peux mettre en accéléré les phases ennemies. Je l'ai très rarement fait. Alors que sur un Fire Emblem, le premier truc que je fais en général, c'est j'enlève toutes les animations de combat et je mets tous les combats en super rapide. Parce que ça n'a pas de temps à perdre, t'es là pour réfléchir à ce que tu vas faire, pas pour regarder des mecs se foutre sur la gueule.
D'accord, alors que là, que ça soit dynamique et qu'il y ait des animations sympas aussi, je pense.
Exactement, ça joue et je vais pas dire que t'as envie de regarder le truc, mais c'est marrant parce que l'animation de tir de Lapin Peach, elle en a, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, et à chaque fois elle fait la con, elle fait genre un gros bisou, puis elle tire, et puis machin. C'est super marrant à regarder aussi. Ça participe énormément à la dynamique du jeu, et je trouve que le fait que les déplacements soient finalement très rapides pour tout le monde, ça fait que t'as pas forcément envie de les zapper, parce que finalement le tour de l'adversaire il passe très vite, et puis derrière c'est à ton tour, et puis tu passes très vite aussi tes propres trucs, et le jeu a une certaine fluidité, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que t'as une fluidité dans le gameplay et dans la façon dont ça enchaîne, qui fait que tout est très naturel. Et ça, c'est vraiment une des putains de grandes réussites du jeu. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus.
C'est peut-être ça justement qui fait que j'aime autant le jeu, c'est que ça change de ces jeux d'habitude qui sont trop rigides.
Trop austères, presque.
C'est ça. Et qui pourraient rebuter les nouveaux joueurs. Là, au contraire, justement, voilà, c'est une très bonne initiation. Peut-être un peu simpliste, mais au final, c'est pas si grave que ça, parce qu'on n'a pas forcément le temps de jouer des heures et des heures au même jeu tout le temps. Là, ça se fait assez bien. Je sais pas, t'as fait combien d'heures déjà dessus pour l'instant ?
J'ai dû faire une grosse dizaine d'heures, peut-être un petit peu plus.
Ouais.
Je pense que la campagne solo doit pouvoir se boucler en moins une douzaine d'heures, un peu en ligne droite. Là, comme j'en ai joué une petite partie avec les enfants qui prennent un peu leur temps de temps en temps, qui comprennent pas tout, donc voilà, mais je pense qu'effectivement, si tu rushes un peu, il y a peut-être moyen de la finir en 8 heures, ce qui pour un jeu comme ça est quand même pas très 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 long. Mais encore une fois, comme c'est plus fluide, je dirais que tu passes moins de temps à être spectateur de l'action, t'as l'impression d'y participer en permanence. C'est ça.
Du coup, alors que c'est un peu différent. Tour par tour quand même.
Alors que c'est quand même du tour par tour. Il y a vraiment un bel exploit là-dessus. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'exploits, techniquement, parce que j'avais dit qu'on en parlerait un tout petit peu,
oui.
Mais le jeu est putain de sa race beau, en fait.
Vraiment. J'adore.
C'est vrai. C'est très agréable à regarder.
C'est super agréable à regarder. Alors, c'est du 30 images par seconde, mais pour un jeu comme ça, c'est pas du tout gênant. C'est pas du tout un jeu orienté action. Ça tourne sur Snowdrop, qui est en fait le moteur qui sert pour The Division. Donc,
d'accord. Ce qui permet, c'est rendu de lumière.
Exactement, c'est très impressionnant. Il y a tout un tas d'effets graphiques super bien. Les animations sont super bien rendues. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'animations différentes. Lapin Peach, elle a, je sais pas, une vingtaine, trentaine d'animations pour tirer, par exemple. C'est super fluide. Il y a des beaux effets de lumière de temps en temps. Les décors, la DA est vraiment sympa. On en parlait un petit peu hors antenne, mais c'est vrai que mélanger Mario et les lapins crétins, la première fois qu'on l'a vu, on s'est dit putain, ça va être pourrave, mais en fait, non, ça passe super bien.
J'ai jamais dit ça, moi.
Le mec qui renie. Reste non, pas dans Drosgar, le déni de tes paroles.
Drosgar, t'es d'accord, ça passe super bien comme
jeu. Ouais, ouais, franchement. Et on avait, enfin, moi, j'avais un petit peu peur justement que le côté fantaisiste de Mario, mais qui est quand même très calibré, parce qu'au final, bah, Mario, on en bouffe depuis 30 ans, donc on commence à avoir vachement l'habitude, soit un peu bouffé par tous ces lapins crétins, et au final, ils ont réussi à faire un bon mélange des deux. Et le fait, justement, qu'il y ait ce casque de fusion, qui fasse des mix, par exemple, entre un lapin crétin et le plomb piranha, ou un lapin crétin et Donkey Kong.
Ça, c'était assez énorme.
Ah, c'est super bien, au final, parce que tu récupères l'essence des deux, et ça donne un très bon rendu, et j'adore.
Et surtout que à la base, les lapins crétins, ils ont pas vraiment d'univers graphique à eux. Et non. C'est ça qui me parce qu'ils squattent à chaque fois les. Ouais, voilà.
Au départ, ils sortaient de Rayman.
Différents univers.
Ils ont commencé à avoir leur propre univers un petit peu avec les suites de Rayman contre les lapins crétins. Mais effectivement, ouais, mais ils ont jamais eu leur. Ils ont jamais
même
eu
la grande aventure,
propre.
Etc. C'était pas spécialement. C'était pas des DA, des DA propres à eux, quoi. C'était des dés un peu génériques, cartoon, avec des reliefs exagérés, des personnages très fins, etc. Mais des choses qui sont finalement très bande dessinée ou cartoon.
Alors justement, on me signale à ma droite que dans les dessins animés Lapin Crétin, qui existent, oui. Ils ont un univers propre qui en fait est quand même assez marqué.
Ah d'accord, donc je dis n'importe quoi.
Faudrait que je regarde d'ailleurs.
Bien.
Pas forcément, mais je veux dire que c'est peut-être plus marqué que dans les jeux.
Ah oui, dans les dessins animés qui passaient sur France 4. Bah ouais, non mais c'est comme dans les jeux La Grande Aventure, etc. C'est des formes qui sont exagérées, c'est des objets qui sont un peu tordus, etc. Et c'est vrai que le fait de le mixer à Mario, c'était pas évident. Enfin, c'était pas évident visuellement.
C'était quoi. Pas obvious, quoi.
Ouais, voilà.
C'était pas, oui, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas, ça coule pas de source.
Exactement.
D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a quand même un truc assez drôle aussi, c'est les bâtiments que fabriquent les lapins crétins. Autour du château de Peach, ils fabriquent en fait le QG de combat, les trucs comme ça, donc les différents bâtiments où on va avoir différents modes de jeu. Où les,
c'est n'importe quoi leur bâtiment.
Et leurs bâtiments, il y en a vraiment qui sont très drôles parce que. Mais comment vous avez réussi à mettre une chaise là, quoi? Et moi qui côtoie des architectes, je peux vous dire que ça ressemble à ça en vrai. Voilà, c'est gratuit, c'est pour moi.
D'accord, voilà, donc, et les bâtiments, c'est genre un empilement de n'importe
c'est
quoi.
Un empilement de grand n'importe quoi qui finit par faire un truc à peu près cohérent. Mais c'est pareil, tu vois, c'est... Mais la construction du monde, elle ressemble un petit peu à ça finalement, c'est. Bon, c'est Mario, donc il faut qu'on mette des briques, des machins, des points d'interrogation, des blocs, des trucs. Et on va mettre un chiotte là. Ok, mais vas-y, fais-toi plaisir, mets un chiotte là, quoi. Ça marche, pas de problème.
J'adore.
Ça fonctionne. Pour finir et pour conclure rapidement, parce qu'on a déjà dépassé un petit peu l'horaire. C'est-à-dire qu'on a un peu traîné sur GoldenEye en début d'émission.
Il est vrai.
Mais c'était les 20 ans de GoldenEye, c'était compliqué. Ce jeu, donc Mario plus Lapin Crétin, qui d'ailleurs est The Lapin Crétin en français, j'ai pas compris pourquoi.
Kingdom Battle. Parce que c'est non officiel, non ?
Bah je sais pas, ça me
paraît bien. Parce que c'est la traduction a été faite par Yves Guillemot.
The Lapin Crétin.
We are proud to introduce
of the Raving Rabbits. Il est bien
The Lapin Crétin.
Bref, c'est Miyamoto. Le meilleur score métacritique d'Ubisoft depuis 2014. C'était pour Far Cry 4, qui avait fait 85%. Je crois que les Lapins Crétins ont fait 84, quelque chose comme ça. Ou non, ont dépassé, ont fait 86 ou 87 sur Metacritic. Donc c'est le meilleur score pour un jeu Ubisoft depuis 2014.
Trois ans.
Est-ce que vous pensez que Ubisoft va vouloir remettre le couvert avec Nintendo, c'est-à-dire qu'ils se disent « bon, il y a un filon, il faut l'exploiter ». Est-ce que vous pensez que Ubisoft va prendre confiance dans la Switch ? Parce que pour l'instant, bah, on a eu Just Dance, mais on va dire que Just Dance est un cas un peu particulier, parce que je pense que Just Dance, il pourrait faire une version pour Game Boy Color, tellement... voilà.
Moi, je veux bien. Hein. Si ça peut me permettre d'avoir un Just Dance.
Je dirais pas non. Mais voilà,
avec la Game Boy Camera.
Bon, Just Dance, c'est un jeu particulier, mais c'est vrai qu'Ubisoft a été, j'ai l'impression, très refroidi par la Wii U. Malgré quelques portages de qualité. Assassin's Creed 4, Assassin's Creed 3 étaient plutôt des portages de qualité. Rayman, un petit peu. Là, sur Switch, si on exclut Just Dance, il y a Mario les Lapins Crétins et il y a Rayman Legends, qui est juste un vulgaire portage de la version Wii U. Est-ce que vous pensez que ça va les encourager, le fait d'avoir un bon score critique, le fait que le jeu a l'air de se vendre plutôt bien, si j'en crois les différentes charts que j'ai vues jusqu'à présent, c'est plutôt correct, c'est un bon score pour un jeu de stratégie. C'est plutôt un score même très 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 honorable. Est-ce que vous pensez qu'Ubisoft va vouloir faire plus de collaborations avec Nintendo ? Est-ce que vous pensez que ça va les remettre sur les rails ? Est-ce que vous pensez que Nintendo va être encouragé à déléguer un petit peu plus de franchises ? Jusqu'à présent, déléguer une franchise comme Mario, c'était pas souvent. C'était pas avec n'importe qui, c'était pas n'importe comment.
Surtout avec des... Et c'est le problème que j'ai vu qui a été régulièrement traité par les journaux, c'est-à-dire le fait de mettre une arme entre les mains de Mario. Et ça, apparemment, c'était pas chose aisée à faire comprendre à Nintendo.
Ça avait l'air d'être pas évident. Après, l'arme est très très cartoon et je pense que c'est passé pour ça aussi. Elle tire pas des balles, elle tire des rayons d'énergie.
Et puis,
elle tue pas, elle fait disparaître. Voilà. Ils ont quand même enrobé ça avec énormément de sucre, mais effectivement, ils ont filé un gun à Mario. Hein. C'était peut-être pas si évident que ça.
Ouais, mais c'est pas bien grave.
Mario se transforme en n'importe quoi. Moi, je m'attends à ce qu'il puisse se transformer en Kalachnikov quand il sera dans le monde soviétique, dans Super Mario Odyssey. Hein.
Call of Duty. Avec le partenariat avec Electronic Arts.
Donc, je reviens. Est-ce que vous pensez que Nintendo va peut-être un petit peu moins hésiter à partager ses franchises phares pour lesquelles Zelda, Mario, ce genre de choses-là, pour lesquelles, en général, c'est plutôt du développement interne, très jalousé, très regardé de très près. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être un petit peu plus enclins à partager ? Est-ce que vous pensez qu'Ubisoft va être encouragé à essayer de faire plus de portages sur Switch ou essayer d'apporter plus de support à la console ? Est-ce que vous pensez qu'Ubisoft va revenir sucer la bite de Nintendo pour avoir d'autres licences comme ça pour pouvoir faire du chiffre ?
Alors, concernant les licences de Nintendo, c'est vrai que le problème CD, les avaient un peu refroidis à l'époque. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de crossover comme ça, pas forcément beaucoup, parce que faut quand même que Nintendo garde un peu la mainmise sur leur série classique, hein, sur du Mario, sur du Zelda, sur du Pokémon, mais ça peut toujours être sympa d'avoir des petits changements comme ça, et puis ça participe quand même à faire un peu grandir la notoriété des licences, hein, c'est sûr, c'est toujours un plus, même si maintenant, je crois que c'est toi qui l'avais dit une fois dans un dojo bar, les petits américains connaissent plus Mario que Mickey, il faut quand même continuer à intégrer les licences et les personnages.
Il faut quand même continuer à l'entretenir.
Oui, et pas laisser dépérir en le laissant juste dans les mains des tiers. Pour ce qui est
hashtag Sonic.
Le pauvre, il se prostitue. Pour ce qui est d'Ubisoft, franchement, j'espère, mais j'ai peur que ça les tente pas plus que ça. J'aimerais bien qu'ils fassent des portages pour tous leurs jeux. Facilement, tu vois, même une version downgradée, je m'en fous, mais pas un portage à la Wii, par contre. Ça permettrait un peu plus...
Ouais. Je te rejoins là-dessus, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage, par exemple, qu'Assassin's Creed Origins...
Voilà.
Et pas de portage sur Switch.
C'est un peu l'exemple que j'avais en tête.
Ouais, voilà, je comprends que le moteur de jeu soit peut-être un peu gourmand, je comprends que ça, mais ça me paraît pas... Enfin, si j'ai réussi à adapter... Bon. Bah oui, voilà, en fait, en gros, aujourd'hui, ça consiste à faire une version PS3, hein, à peu de choses près. Et c'est vrai que s'ils ont réussi à porter un moteur comme Snowdrop, qui était le moteur de The Division pour Mario et les Lapins Crétins, je me dis que porter Jade, qui est le moteur d'Assassin's Creed, sachant qu'il a été porté sur Wii U avec grande difficulté, j'avais lu une des interviews des développeurs qui ont porté le jeu, qui ont dit qu'ils en avaient chié des ronds de chapeau. Alors peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire l'effort.
Très belle expression.
Mais ça permettrait quand même de participer à la diversité de la ludothèque de la machine. Et je pense que ça pourrait se rentabiliser comme portage. Vraiment. Donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Galaxies, du coup, un avis sur la question. Côté
ouais,
Ubisoft,
alors,
côté
je pense déjà, à mon avis, pour les portages, à mon avis, c'est très compliqué du fait que ça soit une structure qui soit une structure d'une console portable. La Switch, elle a quand même une carte graphique d'une tablette, en fait, d'une tablette Nvidia. Et je pense que c'est très compliqué de faire un portage. Ce qui fait que Mario et Lapin Crétin et même Breath of the Wild soient très beaux et très grands. Enfin, soient surtout très beaux et très grands pour Zelda, c'est le fait que c'était développé pour la console et donc du coup totalement optimisé. Donc je pense que faire des portages c'est compliqué. Après, pour l'ouverture au tiers, je pense qu'il y a peut-être deux choses, il y a peut-être deux branches, en fait, deux cas de figure possibles. C'est-à-dire soit les tiers voient que ça a bien marché et dans ce cas-là veulent se lancer sur Switch en se disant si on fait un bon jeu, bah ça, y a pas de raison que ça marche pas, quoi.
C'est vrai que c'est une remarque à la con, mais quand on fait un bon jeu, il se vend.
Et
quand il
ouais,
se vend pas, c'est que c'est pas un si bon jeu que ça.
De l'autre côté, je pense que ça refroidit un peu parce que les jeux Nintendo, quoi qu'on en dise, même si c'est la formule reste un peu la même, c'est quand même de très bons jeux à côté qui sont travaillés et qui sortent quand ils veulent sortir. Ce qui fait que la barre est très haute.
Ah non, mais
donc ça peut refroidir les tiers et à mon avis c'est ce qui refroidit le plus le fait de se dire si on cartonne pas bah on va passer à la trappe quoi parce que à côté il y a beaucoup mieux sur Switch et même s'il y a pas beaucoup de jeux il y a beaucoup mieux niveau qualitatif.
J'ai l'impression poursuivre ce que tu dis que la presse est même pratiquement plus indulgente sur certains jeux d'éditeurs tiers ou que ce soit enfin des éditeurs autres que Nintendo, j'ai l'impression qu'on est plus exigeant envers Nintendo et qu'on est plus indulgent envers les autres. On va pardonner plus facilement certains errements dans certains jeux. Il y a des jeux qui étaient quand même, enfin, que si rare s'il était ici qualifierait de vraie merde. Bon, peut-être un petit peu exagéré comme jugement, mais c'est vrai que si rare a tendance à descendre très très vite certains jeux. Pour parfois des petites erreurs de pas grand chose, et quand tu te rends compte que la presse a dit bah, t'as un Bioshock Infinite, ça rend de la super balle, alors qu'en réalité, ben non, enfin,
c'est
la super balle.
C'est ce qui était sorti quelques temps
voilà.
après que les OPSP soient passés.
Tout à fait, c'est intéressant, ok, c'est rigolo comme jeu, ok, très bien, mais ça reste finalement un jeu assez quelconque. Et j'ai l'impression qu'il y a un niveau d'exigence par rapport à Nintendo qui est très élevé, qui fait qu'effectivement ça peut peut-être effrayer certains tiers qui hésiteraient à porter certains jeux en se disant non, c'est peut-être trop moyen par rapport à ce qu'il y a à côté, on va se faire laminer, ça se vendra jamais. Je suis pas certain parce que sur Switch, les gens, il y en a aujourd'hui beaucoup en circulation, la console se vend très bien, et je pense que ça participerait simplement à la diversité de la ludothèque de la machine, ce qui est une bonne chose parce que s'il y en a pour un peu tout le monde, et ben tout le monde s'y retrouve au final.
C'est vrai. Mais c'est vrai que bah, même Ubisoft, je pense que bah, c'est Ubisoft quoi, donc je pense que ça a très bien marché, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas d'autres jeux, ne serait-ce qu'en partenariat avec Nintendo, hein. Nintendo c'est aussi une entreprise, faut pas l'oublier, donc le jeu se vend très bien, il n'y a pas de raison qu'ils fassent un autre partenariat.
Il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas un autre partenariat.
Oui, pardon. Oui, il n'y a pas de raison qu'il recommence quoi. Mais je pense d'un autre côté que Ubisoft veut, je sais pas, peut-être s'arrêter sur un très bon coup pour pas et attendre pour pas ruiner quoi, pour pas ruiner ce très bon coup et faire passer de Mario et les Lapins Crétins de bon jeu à coup de chance. D'Ubisoft. Mais je pense qu'ils vont continuer quand même.
Zergin, petite pensée sur le sujet. Nous avons perdu Zergin.
Il est mort.
De quoi?
Non. Ah. Il est réveillé, c'est génial.
Il est réveillé. Est-ce que Tendo va céder plus de licences de ce genre-là pour tenter des collaborations, peut-être même éventuellement un peu hasardeuses? Alors, ça fait quand même quelques années qu'ils font ça, mais est-ce qu'ils vont céder sur des licences plus fortes?
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils le font déjà depuis quelques temps. On l'a vu avec Star Fox, Yoshi.
Metroid.
Ouais, je pense qu'ils vont continuer. Oui, Metroid, ça n'a pas été heureux.
Bon, c'était sympathique.
Faites référence à quel jeu?
Metroid Other M.
Ah oui, d'accord.
Que moi j'ai bien aimé, mais qui effectivement n'est pas vraiment à rapprocher d'un Metroid. C'est un peu compliqué. Et concernant Ubisoft sur Switch, Zergy, donc toi tu t'en fous parce que t'as dit j'achète pas de jeux Ubisoft.
Bah non, c'est buggé.
C'est Ubisoft, voilà. Bref.
Ah bah non. Buggysoft, c'est Bugtesda.
Non, c'est Buggysoft et Bugtesda.
Ah oui, d'accord, il y en a deux. Non, c'est compliqué.
Nous allons nous quitter. Avant de nous quitter, la citation du jour hein, qui nous vient de Cyrard. Moi, je me soigne en buvant du vin. Il y a écrit Médoc sur la bouteille. Merci beaucoup.
Merci Cyrard.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci pour vous. Voilà, on va boucler parce qu'on n'est quand même pas en avance.
Mais c'est la famille.
Tout à fait, mais c'est pas grave. On se retrouve mercredi prochain où nous parlerons alors soit de Arms, soit de Splatoon 2, je ne sais pas encore. Je pense que ce sera plutôt Arms, a priori. Je vais essayer d'inviter des gens qui sont des gros fans de Arms et qui me disent faut que tu viennes jouer avec nous depuis très longtemps, tout ça, tout ça. Donc on va parler de coups de poing, de castagne, de baston, de pugilat.
Et de bref, Sonic.
De coups de bourre, des jeux où on va taper sur des clowns. Taper sur des momies, taper sur des jeunes filles, taper sur des mecs à ressort, de la baston, du bourre-pif, enfin bref, ça va y aller. C'est pour la semaine prochaine. En attendant, merci de nous avoir suivis. Ciao tout le monde.
Bisous.
Salut.
Salut.